La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour. Les élèves de seconde 2 du lycée Gimon ont réalisé un projet autour des migrations. Maintenant, voici l'histoire d'un garçon juif qui traverse l'enfer des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve Gianni et Thomas avec David, une histoire sur la Shoah.
Chapitre 1. Je m'appelle David. Je suis né juif, dans un village de Mazalipi, en Pologne, en 1925. Mon enfance était des plus normales pour un jeune garçon de mon village. J'étudiais la Torah, comme tous les petits de ma confession, et jouais avec mes sœurs aux billes. La vie était simple, mais agréable. Je vivais avec ma mère, mon père, mes sœurs et mon grand-père. Mon père était le médecin du village. Et nous vivions sans manquer de rien. J'étais très proche de mon grand-père. Il me parlait beaucoup de sa jeunesse et de sa vie avec ma grand-mère. Je l'aimais énormément. Ma mère, elle, me surprotégeait et me grondait toujours quand je rentrais trop tard pour le dîner. Quant à mon père, il n'était pas souvent à la maison, car il partait pour les villages voisins, pour sauver des vies, comme elle disait ma mère. J'étais très attaché à mes deux sœurs. On jouait toujours avec le fils du cordonnier. Il s'appelait Adrian. Il n'était pas juif et mon père m'avait donc interdit de jouer avec lui. Mais il était mon ami et je n'avais que faire de s'il était juif ou non. À 10 ans, un tragique accident s'est produit. Mon grand-père est mort d'une crise cardiaque. Devant moi, sans rien que je ne puisse faire. Je n'ai toujours pas fait le deuil de sa mort. Mais ce qui suivra plus tard dépassera tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me souviendrai toujours du vendredi 15 septembre 1939, quand la Waffen-SS a atteint notre petit village. Ils voulaient nous emmener dans les ghettos. Mon père s'est interposé, malgré ma mère qui suppliait de ne pas le faire. Mais ne parlant pas l'allemand, il fut battu jusqu'au sang. Ne pouvant plus marcher jusqu'au point de rendez-vous, un des soldats prit son arme, avança vers lui d'un pas confiant et d'un regard froid, il l'abattit. À ce moment-là, je sais que ma vie ne serait jamais plus comme avant. Ils nous emmenaient au ghetto de Tarnow, une ville située à environ 30 km de là où nous habitions. Nous avions l'impression de mourir. Imaginez-vous, marcher plus de 30 km sous les cris et les pleurs de votre famille. Le chemin était escarpé et sinueux. Il neigeait ce soir-là. Le froid glacial nous coupait le souffle. Les gens autour de moi tombaient comme des mouches sous les coups des nazis. À un moment, mes jambes ne répondaient plus. Je ne pouvais pas m'arrêter, de peur d'être abattu d'un coup de fusil dans le dos. Pendant que nous subissions les coups des Allemands, eux, à cheval, riaient à cœur joie de notre pauvre situation. Arrivé au ghetto, 130 de nos tonneaux avaient péri. Je n'avais jamais vu un endroit pareil. Tout était si triste, si sale. Les gens mouraient à même le sol, dans le froid et dans la boue. On nous parqua dans cet endroit où hommes et femmes étaient traités comme des porcs destinés à l'abattoir. Cette ville n'avait rien à voir avec ma petite campagne paisible. Elle était bruyante, insalubre et toujours vibrante par les bruits des canons. Arrivé le ventre vide et diminué de nos forces, le peu d'argent qui nous restait servait à payer la nourriture, qui parfois nous était volée. Nous passâmes deux longues années dans un petit appartement, constitué de deux chambres, une salle de bain et une petite cuisine qui faisait office de salon. Un jour, les SS ont débarqué dans l'immeuble d'en face en défonçant la porte du dernier étage. Je regardais la scène d'un étage plus bas, derrière mon rideau. Un garde s'approcha de la table où était installée la famille et leur ordonna de se lever. Ce qu'ils firent tous sauf un. Au début, je ne comprenais pas pourquoi cet homme se permettait d'atteindre la front, sachant bien que cela finirait mal. L'officiellement donna un ordre à un de ses soldats. Un garde se mit derrière lui et commença à le pousser. C'est à ce moment-là que je compris. L'homme était dans un fauteuil roulant. Et c'est quand le SS s'avança que je le vis. Son visage était terne, presque sans vie. Je n'arrivais pas à voir une lueur de peur dans ses yeux. Il ne semblait ni triste ni apeuré. Il acceptait cette situation, presque comme si elle était voulue. Le soldat de toutes ses forces prit les poignées de son fauteuil, les leva d'un mouvement brusque, et l'homme tomba alors de 5 étages, la tête la première, et finit sa course le crâne fondu en 2 sur la route. Je me rappellerai toujours de ce moment. Toujours. Chapitre 2. La vie était très dure, et le temps passait si lentement que j'en perdais la notion. Nous nous sommes rendus compte assez vite que les nazis raflaient les juifs du ghetto pour les amener dans un endroit que nous ne connaissions pas encore. Nous ne savions pas quand notre tour viendrait. Mais un jour, ma sœur et ma mère, qui étaient au marché pour le repas du midi, ne revinrent pas. Ma sœur aînée et moi étions bouleversés et perdus. Nous sommes restés un an de plus, avant que nous aussi, nous soyons déportés dans le camp d'Auschwitz. Au début, nous étions plutôt heureux, mais perplexes à l'idée de quitter cet endroit qui nous avait fait tant de mal. Mais en découvrant notre moyen de transport, nous nous sommes rapidement fait un avis sur le voyage. Nous étions entassés dans les wagons à bestiaux. Ce wagon fut très vite imprégné de l'odeur de la mort. Nous devions faire nos besoins directement sur le sol du wagon que nous quittions jamais. L'air était saturé. Respirer était de plus en plus difficile. Les enfants pleuraient, car ils étaient souvent séparés de leur mère. Je me demandais ce qui pouvait être pire que cette situation. Nous étions comme du bétail, enfermés. Beaucoup devinrent fous. Certains auraient tué pour ne serait-ce qu'un crouton de pain, même son propre enfant. Nous devions les animaux. C'était l'intention même des nazis. Je voulais protéger ma sœur, mais je pense que c'est elle finalement qui me protégeait. Nous n'avions plus de famille. Il n'y avait plus que nous. Nous étions seuls, dans le noir, à attendre telles des bêtes en cage. Le voyage dura 5 jours. Il me paraît beaucoup plus long. Une fois arrivés là-bas, on sortit tous les cadavres du wagon et on nous ordonna de nous mettre en rang. L'air frais passait à nouveau dans mes narines. J'ai bien cru que j'allais y rester. Mais pourtant j'étais là, debout, avec ma sœur à mes côtés. Nous n'avions plus qu'une envie. C'était de retrouver ma mère et ma petite sœur. Une fois sur le quai, nous étions réceptionnés par des chiens en furie, retenus difficilement par les gardes du camp. Ce dernier était fait de pierre et constitué d'une enseigne gardée de plusieurs soldats armés ainsi que de barbelés. Le complexe était constitué de 3 camps s'étendant sur plusieurs kilomètres. C'était immense. Je voyais au loin de la fumée noire, comme le charbon, sortant de grandes cheminées. Je me demandais ce que les Allemands pouvaient bien brûler. Je ne pus réfléchir bien longtemps avant qu'un garde m'attrape. Mais ne connaissant pas un mot d'allemand, je m'étais contenté de rester bouche bée devant lui. Un coup de crosse plus tard, je me mis à le suivre vers la file gigantesque. Les officiers nous triaient comme marchandises. Les hommes valides furent mis d'un côté, tandis que les femmes, les enfants, les vieillards ainsi que les malades étaient directement embarqués dans les camions comme des sacs de farine entassés les uns sur les autres. Une fois dans la file avec ma grande sœur, je me demandais comment j'allais retrouver ma mère et ma sœur. Elles me manquaient terriblement. Mais alors, quand je m'étais dans mes pensées, une main m'attrapa de force. Je me débattis, mais rien à faire. Le bouc me tenait ardemment. Ma sœur ne s'aperçut pas de ma disparition qu'au trop tard. Je regardais mon ravisseur. Il était grand, brun, semblait vouloir me protéger, car il me gardait dans ses bras. Je ne sus que plus tard que cet homme avait sauvé la vie. En effet, si j'étais resté avec les enfants et les femmes, avec ma sœur, je pense que vous devinez ce qui serait arrivé. Des gardes reprirent ma sœur, qui tentait de revenir à mes côtés, et l'emmenèrent vers le rang des femmes. Je me mis à les supplier de la garder avec moi. Comme récompense, je reçus un coup de coude dans le crâne. Je compris alors que le ghetto n'était pas si terrible. Chapitre 3. Après m'être réveillé dans les vestiaires des hommes, avec un très fort mal de crâne, un chef SS débarqua et demanda un traducteur. Un homme leva immédiatement la main. Il fut donc désigné pour traduire ce que l'officier nous dirait, en nous récitant mot pour mot les règles du camp. Il nous disait de ne pas sortir de notre bloc, sous peine d'être exécuté à mort devant nos camarades. En entendant cela, mon sang s'est glacé. Je repensais à ma sœur et à ma mère, dont je n'avais toujours pas de nouvelles. Une nuit, ne pouvant pas dormir, je me suis mis en tête de retrouver ma famille. Je ne connaissais pas vraiment ce moyen d'accéder à leur bâtiment, et j'étais déterminé. Je me mis à la recherche d'une personne qui pourrait m'aider. J'ai donc demandé au plus ancien d'entre eux, nous, il s'appelait Simon. C'était un Tsigane. Il avait été emmené d'ici depuis le début de la guerre en 1939. Je lui demandais ce qui arrivait aux femmes, aux enfants et aux malades après la sélection, et s'il existait un quelconque moyen d'accéder à leur bâtiment. Il me regarda alors avec un air triste et me prit à part. Il me parla sur un ton grave qui n'indiquait rien de bon. Il me le demanda.
Tu vois la fumée noire qui jaillit des grains de cheminée, c'est là que nous sommes tous destinés.
Je fus pris de peur en entendant ces mots. Qu'est-ce qui arrive à ma famille ? Demandai-je en tremblant. Il détourna le regard vers ces fameuses cheminées de briques.
À l'heure qu'il est, mon garçon, j'ai bien peur que tes proches ne soient déjà dans un monde meilleur.
Je me sentis défaillir. En entendant cette terrible nouvelle, je ne tenais plus sur mes jambes. Il fallut que Simon me retînt, de peur que je ne tombe à la renverse. Je pleurais. Des jours, des semaines durant. J'étais seul à présent. Je ne pouvais plus compter que sur Simon, qui m'avait pris sous son aile. Comme il était l'ancien, on le respectait, et ce qui me permettait de garder ma nourriture, sans qu'on me la vole. Chaque matin, les SS nous rassemblaient dehors, pendant des heures, pour l'appel. Ils nous appelaient avec des numéros, car à notre arrivée dans le camp, nous étions tatoués d'un numéro de série. Ensuite, nous étions par dortoir soumis à une inspection du médecin du camp. C'était le moment le plus angoissant de la journée. En effet, on m'avait expliqué que le médecin désignait ceux qui n'étaient plus en capacité de travailler dans le camp, et donc si nous vivions encore un jour de plus, ou non. Nous savions ce qui arrivait aux hommes qui étaient désignés comme non aptes au travail, même si les Allemands voulaient nous faire croire qu'ils seraient soignés, puis remis dans leur cellule. Un jour de forte pluie, comme nous étions à l'appel, plantés comme des piquets dans la boue et le vent, je vis arriver le responsable de notre section, comme d'habitude, accompagné d'un traducteur. Ce traducteur-là semblait vide, totalement inanimé d'émotion. Baissant la tête, je ne pus tout de suite voir son visage. Quand il revoit la tête pour commencer l'appel, ce traducteur semblait être une traductrice. Les cheveux noirs, tout comme moi, elle était pâle, comme la neige. Ce n'est que quand je vis ses yeux, verts brillants, dernier signe de vie dans ce corps meurtri que je la reconnus. Ma mère. Chapitre 4. C'était elle. Je n'en revenais pas. Elle était là, se tenant près du responsable, rapportant ses paroles une par une. En effet, ma mère avait appris l'allemand car son père était lui-même d'Allemagne. Ça lui avait sûrement sauvé la vie. Pour la première fois depuis mon arrivée dans ce camp, je ressentais enfin de l'espoir. Je décidai donc d'aller la retrouver après l'appel derrière le bâtiment servant d'entrepôt pendant la pause déjeuner. Je me faufilai jusqu'à ce qu'elle puisse me percevoir. Je fis des signes de la main, mais elle ne me vit pas. Quand elle détourna enfin les yeux vers moi, elle me vit. Mais, rapidement, elle détourna le regard pour pas attirer l'attention des SS. Je vis couler une larme dans sa joue. Moi aussi, je me mis à pleurer, sans vraiment pouvoir me retenir. Enfin, une fois l'appel terminé, je lui fis un signe direction de l'entrepôt. Elle se dirigea, dès qu'elle eut la permission. Je courus pour la retrouver. Elle me prit dans ses bras et me serra comme jamais ne l'a fait. Cela dura longtemps, jusqu'à ce que nous fûmes tous à court de larmes.
« Tout va bien ? Tu n'es blessé nulle part ?»
me dit-elle. « Non, je vais bien. Mais toi, tu as l'air épuisé. Ces nazis t'ont-ils fait du mal ?»«
Ne t'inquiète pas pour moi. »
me répondit-elle avec sa voix maternelle. « Où sont-elles ? » ?»«
Qui ça ? »
dit-elle, en sachant bien qui je parlais. « Mes sœurs, je veux les voir. » Elle me regardait des larmes aux yeux.
Ils les ont pris. D'abord Clara, quand nous sommes arrivés, il y a un an, et puis il y a quelques semaines, ta grande sœur qui t'accompagnait.
Elles sanglotaient. Est-ce qu'elles sont... dis-je en hésitant. Elle me regarda en hochant la tête. Je m'écroulais sur elle, en vidant les dernières larmes de mon corps. J'aurais dû être là pour les protéger, criai-je.
Tu n'aurais rien pu faire, pauvre idiot. Elles sont mortes maintenant, alors sèche tes larmes, car il faut avancer.
Me dit-elle sur un ton sévère. Et toi ? Toi, si tu dois survivre. Je ne veux pas me retrouver tout seul à nouveau, lui dis-je en me relevant.
Ma vie n'a plus aucune importance, mon petit. Tu es ma seule raison de vivre à présent.
Notre discussion s'arrêta là, car elle nous appelait déjà pour travailler. Elle m'embrassa et me dit de la retrouver à la même heure, au même endroit, chaque jour après l'appel. Nous nous séparâmes et nous dirigeâmes tous deux vers notre travail. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés après l'appel, et encore le surlendemain et le jour suivant. Cela dura plusieurs semaines, et ça me faisait beaucoup de bien d'être avec elle. Enfin avec une personne pour qui je compte plus que tout. Je ne m'étais jamais autant confié avec ma mère. Mais que voulez-vous, dans la situation où nous étions ? Bref, le fait qu'elle vienne me voir m'inquiétait beaucoup, car elle ne pouvait parler aux prisonniers. Et j'étais toujours inquiet qu'on nous voie. Heureusement, cela n'est jamais arrivé. Un jour, ma mère retrouva presque sa joie de vivre en dansant, quand nous étions une petite famille vivant dans l'insouciance. Elle avait un plan. Un plan qui se voyait être porteur d'espoir. Son plan était le suivant. Soudoyer un officier SS, et comme elle en côtoyait tous les jours, ça ne devrait pas être difficile de les approcher. Ensuite, après avoir réussi à le convaincre, il fallait récupérer un uniforme SS pour me faire sortir du camp. J'exprimais tout de suite mon désaccord. Ce plan, c'était de la folie. Mais ma mère, bornée comme elle est, ne me laissa pas le temps de m'exprimer plus longtemps. En concluant le débat par
« Je ferai tout mon possible pour te sortir de cet enfer, même si cela doit me coûter la vie. »
Elle se mit à pleurer.
« Tu es mon dernier enfant encore en vie, Dawid. Et je ne te laisserai pas encore un membre de notre famille mourir. »
J'acceptai donc, à contre-cœur, et nous nous séparâmes. Le lendemain matin, elle ne revint pas avec l'officier avec qui elle était. Depuis ce jour-là, je ne la revis plus jamais. Chapitre 5. Les jours passaient comme des mois. Je n'en pouvais plus. Chaque visite, c'est le médecin. Je pris ma bonne étoile pour rester un jour de plus. Je répétais, pas aujourd'hui. La peur laissa vite place à la haine. Je voulais tous les tuer, les bourreaux de ma mère, de toute ma famille. Mais j'étais là, impuissant. Alors, j'ai commencé à m'en vouloir à moi. Pourquoi je laissais faire ça ? Je ne suis qu'un idiot, répétais-je. Malgré tout, les semaines passèrent, les années finirent par s'écouler. Et j'étais toujours en vie. Je ne sais pas par quel miracle, sûrement par ma volonté de venger la mort de ma mère. Vous savez, la vengeance pousse un homme à faire de n'importe quoi pour accomplir son sombre projet. Je me rappelle qu'un jour, en août 1944, on nous annonça que l'armée rouge n'était qu'à 200 km du camp et qu'elle commençait à libérer les autres camps situés plus à l'est. Les Allemands étaient en train de perdre, et nous le savions. Je me dis que j'avais encore une chance. Les nazis, voyant que leur chute approchait, décidèrent de liquider le camp de tout témoin du génocide. L'usine de la mort tourna encore à plein régime jusqu'à l'arrivée des Russes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ils ne revenaient pas de nous voir dans cet état. J'avais peut-être perdu 30 kilos. J'étais là, vivant, et avais encore l'envie de vivre, pour remercier ma mère, qui m'en garde sûrement d'en haut.
C'était la dernière page du livre. Je suis encore sous le choc. Je ne pensais pas que mon grand-père avait vécu tant de choses horribles. Malheureusement, il manquait quelques pages et je n'ai pu retrouver. Malgré tout, je suis heureux de connaître enfin sa vraie histoire. J'aurais aimé le découvrir avant sa mort. J'ai tant de questions à lui poser et tant de questions qui resteront sans réponse. Enfin, c'est peut-être mieux ainsi. Il est déjà une heure. L'horloge sonne dans la chambre de mes grands-parents. Après cette adrénaline, la fatigue se fait sentir. Je me suis endormi en pensant à lui. Cette nuit-là, j'ai pas rêvé.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires Taubenas et de sa région.